BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot sur BFM Business. Au programme aujourd'hui, marque employeur et expérience collaborateur. On en parle avec la DRH de la semaine, Magali Castano, chez Technip Energy. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions. Et cette semaine, c'est avec vous, Camille Bourg. Bonjour.
Bonjour Erwan. Et aujourd'hui, c'est avec l'avocate Séraphine Poyer qui répondra à une question sur la faute professionnelle et ses conséquences. Écrivez-nous, vous aussi, pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Les dirigeants sont-ils trop distants de leurs salariés? On va décortiquer une étude qui porte sur cette question dans notre focus. Et en fin d'émission, ça sera la carte blanche de Yannick Mercieris qui nous dira qu'on ne prend pas assez de vacances. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Oui, on n'arrête pas de parler de raisons d'être, d'engagements sociaux, environnementaux, mais au fond, avec ce côté parfois cosmétique et marketing, hein, faut bien le dire, est-ce qu'on se soucie vraiment de l'expérience collaborateur? Bah, c'est toute la question qu'on va poser à la DRH de la semaine. Bonjour Magali Castano.
Bonjour.
DRH de Technip Energy, spécialiste des solutions de transition énergétique. On parle proposition de valeur employée avec vous. Ce qui se résume à quoi, pour commencer, chez Technip Energy?
Alors, c'est tout nouveau pour Technip Energy. On a mis presque 3 ans à construire cette offre de valeur, cette marque employeur, parce qu'on voulait vraiment que ça vienne du terrain, de nos employés. Donc, on a fait ça comme un projet collaboratif. Et notre marque employeur, c'est be part of the solution, et en bon français, ensemble soyons acteurs de la solution. Et c'est vraiment un résumé de ce que l'on veut être, l'expérience employeur pour nos collaborateurs.
Donc aussi bien pour ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire pour les fidéliser, j'imagine aussi,
c'est exactement.
Leur savoir pourquoi ils sont dans cette entreprise et leur donner envie de rester, c'est la première chose.
Oui, tout à fait. Et la marque employeur, elle s'adresse en effet à nos employés et aux futurs collaborateurs.
Oui.
C'est pour ça qu'on l'a construite avec nos employés en direction des candidats pour Technip Energy.
Donc attirer de nouveaux profils aussi, en indiquant très clairement quelles sont les valeurs de l'entreprise.
Exactement. On a d'ailleurs utilisé notre raison d'être et nos valeurs pour construire cette marque employeur autour d'un futur durable, de l'innovation, de la collaboration, avoir une culture très inclusive et préparer les compétences de demain. Parce que le sujet des compétences est fondamental.
Vous disiez que c'était construit de manière collaborative, c'est-à-dire que vous avez impliqué les salariés, pas uniquement la direction ou les ressources humaines dans cette construction-là?
Tout à fait. On a fait des groupes de travail, on a interrogé nos collaborateurs sur leur expérience dans l'entreprise et ce qui était important pour eux et ce que Technip Energy leur apportait dans leur.
Et à partir de là, vous avez pu ressortir des choses très concrètes.
Les thématiques et nos piliers qui sont à la fois qui traduisent l'expérience aujourd'hui et puis l'ambition aussi de Technip Energy pour demain.
On parle beaucoup de turnover aujourd'hui parce qu'il y a une compétition, on s'arrache les talents, surtout dans la tech. Il n'y a pas du tout de problème de. Enfin, des problèmes de recrutement, il y en a, mais en tout cas, quand on cherche du travail, on n'a pas le souci de trouver un employeur. C'est une manière aussi pour vous de réduire le turnover?
Ça en fait partie. En effet, on est une entreprise, majoritairement, on a des ingénieurs dans nos 15 000 collaborateurs. Et des ingénieurs sont très recherchés.
Ah oui.
C'est l'âge d'or des ingénieurs aujourd'hui. Et donc, on doit en effet à la fois leur proposer une belle expérience et les inciter à rester avec nous. Et c'est ça que l'on traduit, oui.
Est-ce que, on parle beaucoup aussi de la jeune génération dans cette émission, les moins de 35 ans, on va dire, ils sont encore plus sensibles à ces questions-là? Est-ce que vous le constatez ou on peut dire que c'est général, ça intéresse vraiment tout le monde?
Alors, dans nos plans de recrutement, depuis 3 ans, on a multiplié par 3 le nombre de jeunes diplômés. Donc, on est 15 000, 2500 recrutements et maintenant 500 jeunes diplômés.
Parce qu'ils postulent plus ou parce que vous faites l'effort d'aller les chercher?
On va plus les chercher. On est dans une industrie, l'énergie qui bouge beaucoup, qui est très technologique, où il y a des enjeux et ça va de plus en plus vite. Donc, ça correspond aussi très bien à des profils que l'on peut développer avec nous. Et donc, c'est ça que l'on met beaucoup en avant. Et que ce soit dans des métiers, dans la chimie, dans dans les procédés, mais aussi dans tout ce qui est digital. Comme beaucoup d'entreprises, c'est des profils qu'on recherche. Et donc, on a mis des parcours de formation en interne aussi pour aider certains collaborateurs qui ne viennent pas forcément de ce domaine-là, mais à se former sur les aspects data, digital.
Et ils ont des attentes différentes alors ou pas, les jeunes ?
Ils ont des attentes différentes. Il y a un aspect vitesse qui est très présent. Il faut que ça aille plus vite et aussi être impliqué, être engagé. Et ça, c'est les sujets de la raison d'être, des valeurs.
Donc, de plus en plus, c'est à l'employeur d'arriver à suivre, non ? Et non plus à l'employé.
C'est sûr que ça, on a besoin d'anticiper et de la collaboration qui est très fort chez Technip Energies, parce qu'on est une entreprise aussi de gestion de projet, donc on travaille beaucoup ensemble. Ça, c'est quelque chose d'important. Collaborer, faire ensemble, expliquer aussi, et impliquer, engager.
Tout à l'heure dans l'émission, on va détailler un sondage Opinionway qui nous dit que 55% des salariés ne connaissent pas ou n'adhèrent pas à la stratégie de leur entreprise. Ce résultat, c'est un peu un cauchemar pour l'employeur, non ? Pour les RH ?
Pas que pour les RH, ouais. Je dirais pour l'ensemble des managers. Et c'est un sujet. Alors nous aussi, on a notre enquête d'opinion en interne. Pour la deuxième année, on a fait une grande enquête d'opinion.
Ouais, est-ce qu'on est sur les mêmes niveaux ?
Collaborateurs. Et un des points d'amélioration, c'est en effet la vision pour le futur. Et je dirais, c'est un des points, c'est l'expliquer, mais c'est aussi faire le lien avec le quotidien de chacun. Et c'est ça où j'en reviens à la marque employeur, le développement des compétences, c'est traduire la stratégie moyen long terme qui est importante dans le quotidien des collaborateurs pour que chacun puisse contribuer.
Est-ce que la proposition de valeur, elle est appelée à évoluer ou est-ce que là, elle est gravée dans le marbre et on se dit
be part of the solution, soyons acteurs de la solution, c'est par définition une offre de valeur qui amène à évoluer en fait, parce qu'on parle du futur, de la solution, donc la base, les valeurs de l'entreprise, elles restent, mais elles sont vivantes aussi, et c'est là où chacun peut amener sa pierre.
Est-ce que vous continuez à construire avec les salariés, à discuter avec eux pour voir aussi comment on fait évoluer ces bases-là ?
Oui, je dirais notre enquête annuelle d'opinion, où on a plus de 80%, c'est-à-dire 82% des collaborateurs qui ont répondu. C'est une façon de prendre le pouls de l'entreprise et que chacun puisse donner son avis. Et on l'a fait pour la deuxième année et on ajuste nos plans. Donc c'est important pour nous.
Oui. Magali Cassano, il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager vous êtes. Marianne vous amène la boîte du DRH. Je vous invite, comme c'est la tradition, à piocher un premier papier, une phrase à compléter. Pour savoir quel DRH vous êtes.
Dans ma boîte, on me reproche de...
Ah.
Elle n'est pas facile.
Non, bah non,
peut-être on me reproche de faire trop de choses en même temps.
Ah oui.
Et ça, c'est un enjeu. Trouver la bonne vitesse et donner de la cohérence à ce que l'on fait, c'est un des enjeux pour
moi. C'est quoi ? C'est savoir déléguer aussi ? C'est savoir attribuer certains sujets à certaines personnes ?
C'est la délégation,
service.
C'est ouais. aussi trouver le bon tempo pour lancer des initiatives et des projets. On a besoin de tout, mais il faut aussi que chacun puisse s'approprier les sujets.
Bon, elle n'était pas facile celle-là. Allez, on en tire une dernière, peut-être un petit peu plus simple.
Dans ma boîte, je valorise, je dirais, les compétences de chacun et la diversité des compétences, parce que c'est ce qui fait le succès en particulier de notre entreprise.
Ouais, et ça marche donc. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Magali Castado, DRH de Technip Énergie. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on retrouve Camille pour appeler notre experte les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite Séraphine Poyer, avocate en droit du travail, pour répondre à cette question. Je crois avoir commis une faute. Combien de temps mon employeur dispose-t-il s'il veut me sanctionner ? Écoutez.
Qui dit faute, dit comportement du salarié, contraire à ses obligations envers son employeur. Alors, si le salarié a commis une faute, le code est clair. Il y a un véritable droit à l'oubli. C'est la prescription, et cette prescription est de 2 mois. En d'autres termes, aucune sanction ne peut intervenir après ce délai de 2 mois, sauf engagement poursuite pénale. Mais attention, ce délai de 2 mois court à compter de la connaissance par l'employeur des faits fautifs. Aussi, un salarié peut se faire rattraper par son passé pour des faits anciens. Alors évidemment, plus la date des faits sera éloignée, et plus l'employeur devra prouver par des éléments précis la date à laquelle il a eu véritablement connaissance de la faute. Si ce délai de 2 mois est dépassé, la sanction sera annulée par le juge et s'il s'agit d'un licenciement, il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Merci Séraphine Poyer. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On répond toutes les semaines à vos questions dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Les dirigeants sont-ils trop distants de leurs équipes? Oui, selon une étude de Wiscom que vous portez aujourd'hui dans Happy Boulot, Charlie Clark. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Wiscom, donc cabinet de conseil en stratégie orale. Et avec nous, j'accueille également Rose Olivier, directrice de l'observatoire The Boson Project. Bienvenue.
Bonjour. Merci.
Avant de décrypter tout ça, les grands enseignements de ce baromètre avec vous, Camille Bourg.
Deux ans après le premier baromètre, le constat s'est aggravé. Les salariés se sentent de moins en moins proches de leurs dirigeants et pourtant ils sont désormais 96% à s'exprimer régulièrement, ce qui représente 3 points de plus par rapport à la précédente édition. Mais ils sont jugés moins convaincants par leurs équipes. Un salarié sur deux estime que la parole de ses dirigeants ne lui apprend rien et qu'elle est une perte de temps. C'est 4 points de plus cette fois-ci. Les salariés sont 29% à affirmer que leurs dirigeants ne sont pas inspirants, en progression de 5 points sur 2 ans. Ils apparaissent de plus en plus distants et leur prise de parole ne correspond pas à la réalité d'un salarié sur deux.
Alors Camille, que souhaitent les salariés finalement ?
75% voudraient que leurs dirigeants parlent de problèmes concrets plutôt que des enjeux de l'entreprise. Voilà quelques exemples, l'inflation, la crise écologique ou encore la perte de sens au travail.
Merci Camille. On a des chiffres là qui sont assez édifiants. D'abord, c'est quoi ? C'est une surprise, Charlie Clark, de voir ces résultats ?
Ce qui est choquant dans ces résultats, c'est de voir que d'un côté, depuis 2 ans, on a des patrons, des dirigeants qui font beaucoup d'efforts pour parler plus, parce qu'on le sait, la parole, elle engage les collaborateurs. Et ce constat dramatique qu'on vient de voir, que finalement, ça ne convainc pas les collaborateurs et qu'ils trouvent leurs dirigeants distants, pas proches de leur réalité, et pire, pas empathique.
Oui, parce que alors, tout le paradoxe, c'est que quand même, on demande aux managers, aux dirigeants de parler, d'échanger.
Oui, bien sûr.
Et malgré ça, on n'est pas content.
Parce qu'il y a encore un problème, et pour nous, c'est le problème fondamental. Les dirigeants, les managers, ils confondent parler bien, parler beau, qui est souvent rapport avec l'éloquence, avec la rhétorique, l'art oratoire, et qui finalement n'a aucun intérêt à part de l'ego personnel, avec le parler pour les autres. Et ça, c'est ça qui inspire. Et parler pour les autres, inspirer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner envie d'eux.
Rose-Olivier, il faut se sentir concerné en fait par les messages que porte la direction, les managers.
Oui, tout à fait, mais je pense que c'est aussi à remettre en contexte avec ce que vivent les dirigeants aujourd'hui. On parle d'un climat de permacrise avec la crise sanitaire qui a succédé ensuite avec la crise de la guerre en Ukraine. On parle d'inflation économique, d'inflation réglementaire, de désengagement des salariés. En fait, tout ça crée un climat très complexe dans lequel évoluent les dirigeants qui rend de fait compliqué l'art de diriger, de concilier des injonctions contradictoires. Et peut-être un chiffre qui marque un petit peu cette complexité, c'est qu'effectivement, il y a une hausse des défaillances dernièrement. Mais plus que ça encore, il y a une hausse des cessations volontaires d'activité qui montre peut-être que l'art de diriger est devenu plus complexe que jamais.
Sur le contexte d'actualité dont parle Rose-Olivier, Charlie Clark, d'accord avec ça, il y a un contexte qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Et même si on a de la bonne volonté, on a du mal finalement à faire passer le message. Il y a tellement de préoccupations.
Bien sûr. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort dans l'étude. Aujourd'hui, 75% des salariés voudraient que, plutôt que de faire des grands discours sur la stratégie à moyen ou long terme de l'entreprise, les dirigeants soient beaucoup plus focus sur leur réalité, sur leur vie de tous les jours. Et ça, c'est un des chiffres les plus marquants de l'étude. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dirigeants doivent faire beaucoup d'efforts, encore plus d'efforts, et c'est dur d'être dirigeant, pour donner l'impression, ou en tout cas, parler des collaborateurs d'eux-mêmes. Il n'y a que ça qu'ils veulent. Vous leur parlez d'eux, ils vous écoutent. Vous leur parlez de vous, ils s'en foutent complètement.
Bon, et vous, chez Wiscom, c'est un peu votre travail.
Ouais.
Vous les aidez à ça.
Ouais.
Finalement, à leur dire, oui, communiquer, mais voilà ce qu'il faut dire et pas dire.
Absolument. Nous, on est un cabinet en stratégie orale, et on intervient sur 3 piliers qu'on appelle les 3 F de la stratégie orale. Le fond, la forme et le format. Sur le fond, quand on fait de l'oral, qu'est-ce qu'on dit pour engager les collaborateurs, pour leur montrer que finalement, il n'y a que eux qui comptent, que ce sont eux les stars. Sur la forme, comment ce corps peut-il montrer physiquement aussi aux dirigeants, aux collaborateurs, qu'il n'y a que eux qui comptent. Et sur le format, comment on crée des moments conviviaux où finalement il y a le dialogue qui s'installe entre le dirigeant et le collaborateur.
Il faut quand même que dans le fond, tout ça se retrouve. C'est pas juste la forme, savoir faire passer les messages et les bons messages. Il faut ensuite que le salarié voit dans la réalité de son quotidien que ce qu'on lui a dit est la vérité.
Oui, tout à fait. Vous avez parlé de parler vrai. Il faut être ancré dans le réel pour que ça résonne, que ça fasse écho avec un quotidien qui est vécu. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? J'aime beaucoup cette métaphore que j'emprunte à l'amiral Prazuc, qui était le chef d'état-major des armées, qui parlait du parapluie et du parapluie qu'il fallait savoir ouvrir une fois le temps de la tempête passé. Et donc, rouvrir le débat, le dialogue, pour justement être en prise avec le vécu des collaborateurs et être plus juste ensuite dans ce qui est partagé, dans les messages, dans les sujets sur lesquels il faut rassurer également.
Est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles c'est plus difficile ? Je ne sais pas si on parle des différents secteurs qui sont plus vulnérables aujourd'hui, ou des grandes entreprises peut-être plus difficiles que les TPE. Est-ce qu'on peut... Il y a un lexique comme ça qui nous permet d'avoir une lecture.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. De notre côté, nous, on ne voit pas vraiment de différence. Ouais. Il y a ce dirigeant qui est toujours là, qui plus il gravit les échelons d'entreprise, plus finalement il est seul. Moins aussi, on lui dit les choses et plus il est distant des collaborateurs. Et donc, quelle que soit finalement la taille des entreprises, quel que soit leur secteur, il y a toujours un enjeu. C'est, vous l'avez dit, recréer ce dialogue, recréer cette connexion. Et ça, c'est une vraie préoccupation de tous les dirigeants.
D'accord avec ça, Rose-Olivier ?
Avec ça, finalement, comment est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs moyens qui sont à la main des dirigeants pour se reconnecter au réel, au terrain. On parle de major conseiller dans la marine pour aller prendre le pouls au sein des effectifs du bateau et le remonter au commandant. Il y a cet outil qu'on trouve très défectueux aujourd'hui dans les entreprises qui s'appelle le dialogue social, qui permet une représentation salariale et d'initier des débats qu'il faudrait peut-être un petit peu réparer. Et puis, il y a le corps managérial en fait, qui a des yeux, des oreilles, des antennes un petit peu partout dans les équipes qui peuvent être des relais justement pour prendre ce pouls. Mais en tout cas, je pense qu'il faut ne pas se cantonner au diagnostic quantitatif, au baromètre, quand on veut prendre le pouls de son corps social, parce que finalement, l'information, elle reste trop superficielle.
Mais c'est des gros chantiers, tout ça, non ? Ça peut, à vous entendre, je me mets à la place d'un patron qui ne met pas tout ça en place, il peut être un peu effrayé en se disant, moi, je fais pas du tout ça. Comment, on commence par quoi et à quel rythme ?
C'est un sujet de gouvernance et de bonnes instances pour remonter les informations. Et en fait, c'est une gouvernance qui doit être circonstancielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place les mêmes dispositifs quand on est en période de crise, qu'il faut rassurer, qu'il faut une communication descendante, que quand on est dans une phase de co-construction stratégique où là, au contraire, il va falloir beaucoup remonter de la matière du terrain.
Ouais. On parlait de... Oui,
ouais, pardon, si je peux aussi rebondir, je pense que la vraie et unique et seule bonne question que doit se poser tout dirigeant aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et ça peut vous surprendre, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça rejoint tout à fait vos propos. Et si vous vous posez cette question-là, vous êtes dans cette bonne logique que nous, on appelle la logique empathique. C'est, on ne parle pas pour soi, on parle pour ceux qui sont en face. Et il faut prendre le pouls, vous l'avez dit, de ceux qui sont en face.
Parce que l'important, ce n'est pas juste la prise de parole du dirigeant, c'est d'être dans un dialogue quand même.
Bien sûr, bien sûr. Et toute la prise de parole du dirigeant, elle n'est là que pour créer ce dialogue. Je vous l'ai dit au départ, être inspirant à l'oral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner envie d'eux. Et donc, tous les outils qui soient sur le fond, la structuration du message, la forme ou même le format, comment on organise une prise de parole, ne sont tournés que vers ça, donner envie aux collaborateurs de vous suivre et de vous suivre dans cette aventure.
Bon, quand même, un salarié sur deux qui trouve que son dirigeant n'est pas inspirant, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail pour ceux qui sont dans la moitié négative finalement. On met en place des bonnes résolutions de gouvernance en 2024 en se disant on va essayer de faire mieux pour l'année prochaine.
Bien sûr, bien sûr. Et peut-être, encore une fois, un conseil simple, demandez-vous plutôt qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, ça c'est la première chose. Et puis gardez en tête que finalement, dans une relation, dans une conversation, dans un dialogue, il n'y a qu'une seule star. C'est pas celui qui parle, c'est ceux qui sont en face.
Vous en avez parlé d'ailleurs dans votre enquête, le sujet de la cohérence, peut-être un manque de cohérence. cohérence parfois dans la stratégie des dirigeants qui est relevée. Il y a un sujet peut-être de colonne vertébrale, de s'adapter à son auditoire, de s'adapter à son vécu, tout en respectant une colonne vertébrale de conviction qui va créer de la continuité et finalement de la réassurance sur le temps long.
Bon, il nous reste une minute, ça c'était le conseil pour les patrons. J'aimerais quand même que sur la minute qui nous reste, on se tourne vers les collaborateurs, les salariés. Comment est-ce que, de ce point de vue-là aussi, on peut instaurer un dialogue, faire comprendre à ces managers que voilà quelles sont nos attentes.
Mais d'abord, moi, je voudrais leur dire, soyez pas trop sévères à l'égard de vos patrons, de vos
dirigeants. Parce que là, ils le sont.
Oui, ils le sont, mais ceux qui viennent chez nous, ceux qui viennent travailler, ils sont toujours teintés de très bonnes intentions. Et si ils prennent ce sujet à bras le corps, c'est toujours quand même dans cette volonté de créer du dialogue. Et donc, ça reste des humains. Ils sont pas toujours en forme. Ils peuvent être fatigués. Ils parlent beaucoup toute la journée. Essayons d'être un peu plus doux à leur égard.
Bon.
Je sais que une jeune génération qui rentre sur le marché du travail est peut-être un peu décomplexée vis-à-vis de la hiérarchie, de l'autorité, a aucun problème à partager ses sentiments stratégiques, ses intuitions. Et je pense qu'en fait, il faut pas hésiter parce que des fois, c'est vécu de manière très positive de la part des dirigeants puisqu'ils ont justement ce sentiment de solitude et que ça leur enlève les œillères entre guillemets.
Et ça, c'est finalement ce qu'apporte aussi la nouvelle génération.
Voilà.
Et qui aide aussi à transformer les entreprises de manière positive. Merci beaucoup, Rose Olivier, directrice de l'Observatoire The Boson Project, et Charlie Clark, président de Wiscom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Mais on sort à peine des fêtes de Noël qu'il est déjà temps de faire le point sur nos vacances avec vous, Yannick Mercieris.
Plus de 70% des Français estiment qu'ils n'ont pas assez de vraies vacances. Pourtant, on en a beaucoup, non ? Oui, les Français ont en moyenne 28 jours de congés payés par an. Selon une grande étude menée par Expedia, qui a interrogé les travailleurs du monde entier, les Français n'en prendraient donc que 23, ce qui nous placerait juste derrière l'Allemagne, Hong Kong et le Japon. Bon, à l'autre bout de ce classement, sans surprise, c'est les Américains.
That's the American way.
Alors pourquoi on ne prend pas plus de congés puisqu'on en a autant ? Et bien pour ça, il y a deux raisons principales qui freinent les gens. La première, sans surprise, c'est l'argent. Et la deuxième, c'est le temps. Soit parce qu'on a trop de travail, soit tout simplement parce qu'on est mal organisé. Enfin, un dernier point important, on prend des jours off pour faire autre chose que d'être en vacances. Rendez-vous perso, rendez-vous médicaux ou même la gestion des enfants. En fait, c'est tous ces petits moments-là qui nous donnent l'impression de ne pas être assez en vacances. Donc, pour avoir une santé mentale, physique et une motivation au top, n'oubliez pas que pour avoir envie de revenir, il faut savoir partir.
Happy Boulot, le labo RH.
Et on vous retrouve, Camille, en 4 minutes avec notre invité aujourd'hui, le fondateur de Seiza.
Seiza, c'est une plateforme qui vise à accélérer le recrutement des métiers de terrain. Bonjour Camille Connefroy. Vous avez 400 entreprises clientes et ce dans différentes industries. L'agroalimentaire, le transport, la logistique, le retail, pour n'en citer que certaines. Plus de 50 collaborateurs partout en France. Alors est-ce que vous pouvez nous dire que propose Seiza concrètement ?
Alors concrètement, on va utiliser la technologie pour automatiser le processus de recrutement pour les recruteurs de ces métiers, donc de terrain. Et l'objectif, ça va être d'accélérer le processus de recrutement, puisque comme on va le voir dans la suite, dans l'étude que nous venons de mener, plus le processus est rapide, plus on a de chances de recruter.
Et donc vous allez sur les réseaux sociaux, parce que c'est là aussi que sont les profils. Finalement, c'est l'employeur qui va chercher le candidat idéal.
Tout à fait. Ouais. On est plus dans les années 80-90.
C'est le recrutement inversé.
Exactement. Ouais. On n'attend plus de recevoir les candidatures. On y va proactivement, notamment parce qu'on a une situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut aller les chercher. Mmh. Aussi parce que parfois, le candidat ne nous connaît pas. Donc, on aide les entreprises à aller chercher les candidats sur les réseaux sociaux, leur proposer un métier, très souvent en l'expliquant rapidement, en proposant une candidature très simple, sans CV, en répondant à des questions par exemple. Et on va rencontrer les candidats. Et tout l'enjeu, c'est d'accélérer ce processus pour maximiser son recrutement.
Et l'enjeu, c'est aussi de donner envie à ce candidat d'aller dans l'entreprise. Parce qu'en fait, lui, au départ, peut-être qu'il ne connaît même pas la boîte et il n'a pas forcément le profil complètement adapté non plus.
Alors, effectivement, il n'est pas forcément adapté dans tous les cas, mais on va essayer, alors par le biais des réseaux sociaux, une créa, une image, parfois une vidéo même, de donner envie au candidat. Donc c'est du marketing, hein, et on va donner envie au candidat d'aller candidater à cette offre d'emploi. Et ensuite, on va essayer de l'accueillir avec les bras ouverts pour lui donner vraiment, vraiment envie de candidater.
Et grâce à votre service, combien de candidats ont postulé finalement ?
Alors, beaucoup. Sur l'année dernière, c'est quasiment 1 million de candidats que nous avons reçus. Donc pour tout type d'entreprise, comme vous l'avez dit, on est à la fois en Europe mais également aux États-Unis. Et donc on a généré énormément de candidatures. Et derrière, c'est pour ça qu'on a créé cette technologie aussi, c'est d'automatiser le traitement, parce que traiter 1 million de candidats, même s'il y a beaucoup de recruteurs, ça prend du temps. Et donc, l'objectif, c'est de traiter du volume et d'y amener de la vitesse.
Vous parlez de l'étude que vous avez réalisée et moi j'évoquais le fait qu'on peut être surpris parfois qu'on fasse appel à nous alors qu'on se dit on n'a pas forcément les compétences requises, nécessaires. Ce qu'on voit dans votre étude, c'est qu'on n'est pas loin des 100%, 96% des candidats sont prêts à se former pour de meilleures conditions de travail. C'est-à-dire que même si on n'a pas les compétences nécessaires au départ, on est complètement OK pour que l'employeur nous aide à les acquérir.
Alors, on est plus qu'okay. Effectivement, il y a beaucoup de...
On est demandeurs, ouais.
Le marché, il est un peu paradoxal. C'est que d'un côté, les entreprises ont du mal à trouver des candidats. Et de l'autre, il y a malgré tout des candidats qui sont prêts à se donner les moyens d'être formés pour accéder à de nouveaux types d'emplois, mieux rémunérés, avec des meilleures conditions. Et donc, effectivement, les entreprises commencent à jouer le jeu en plus de ça et acceptent de traiter des candidats qui n'ont pas forcément de qualification pour cet emploi-là et de les former parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix et les candidats avec les compétences qu'elles recherchent, ils n'existent pas forcément.
Et la rapidité du recrutement, ça c'est aussi un autre enseignement de votre étude, c'est 82% des candidats privilégient une entreprise qui va recruter en une semaine. On veut plus aller dans les boîtes qui mettent 6 mois à décider, à prendre une décision.
Je sais pas si on peut faire une comparaison avec tous les services qu'on consomme au quotidien, commander un taxi, recevoir une livraison de nourriture ou quoi. Les choses vont vite, s'accélèrent. Les candidats ont besoin d'aller vite. Encore plus les jeunes. On n'est plus prêt du tout à attendre un mois avant d'avoir une réponse. Et donc, le candidat qui voit que l'entreprise est capable de lui apporter une réponse rapide a envie d'y aller, quoi.
Merci beaucoup,
merci.
Camille Conefroy, PDG de CESA, d'être venue dans Happy Boulot. Et merci, Camille Bourg. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, bien sûr, en podcast, comme toutes les semaines. N'hésitez pas à les partager. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.